Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Marie-Claude Oumabadi. Deuxième temps de notre série consacrée à l'Océanie, au fil de l'Océanie, après avoir évoqué hier les nouveaux équilibres géopolitiques de la région et avant de nous intéresser demain à ces multiples identités, concentrons-nous aujourd'hui sur l'Australie. Les incendies saisonniers s'y sont cette année déclenchés plus tôt et plus vivement que d'habitude, livrant au monde un spectacle apocalyptique qui tente à faire de l'île continent le symbole de l'Anthropocène. L'Australie, icône de l'Anthropocène, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
On ne peut pas arrêter ces feux. Les gens doivent rester concentrés. C'est très sérieux.
Les incendies sont tout proches de ma maison. Si le vent change de direction, cela pourrait toucher ma maison, celle de mes voisins et de ma famille. Donc en fait, il faut évacuer. Cela relève de la survie.
C'est comme si ces incendies faisaient ce qu'ils voulaient. Avec un esprit moqueur, ils partent dans une direction et le lendemain, ils partent de l'autre côté et ils vous surprennent par derrière.
Mon voisin est resté pour défendre sa propriété. Je ne suis pas restée, j'ai évacué les lieux. Il m'a appelé ce matin pour dire qu'il était désolé, que ma maison avait brûlé.
Plus de 100 000 km² réduits en cendres, 2 000 habitations détruites, 32 morts. Les feux survenus en Australie, extrêmement difficiles à maîtriser en dépit d'une mobilisation massive, ont plongé une partie du pays dans le chaos. Pour la première fois, les habitants des grandes villes n'ont pas regardé les incendies à la télévision, mais depuis leurs fenêtres, des centaines de millions d'animaux, dont beaucoup appartenaient à des espèces menacées, ont péri dans les flammes. Et si les feux ont toujours existé, la violence de ceux-ci vient illustrer la vulnérabilité du pays face au changement climatique. Déjà confronté à des épisodes réguliers de sécheresse, aggravés par la salinisation des rivières et à la diminution de la grande barrière de corail, le paysage australien apparaît à nouveau comme la préfiguration cauchemardesque d'une planète réchauffée. Ironie tragique pour le premier émetteur de CO2 par habitant de l'OCDE, dont la bonne santé économique repose essentiellement sur les activités minières, au premier rang desquelles l'exploitation du charbon, régulièrement encouragée par le Premier ministre Scott Morrison. Alors dans quelle mesure l'Australie constitue-t-elle ce laboratoire de l'Anthropocène, expérimentant avant les autres les conditions climatiques extrêmes? À quel point ces catastrophes sont-elles liées à la spécialisation économique du pays dans l'exploitation des ressources naturelles et au climato-scepticisme aussi affiché du gouvernement? Et comment ces bouleversements affectent-ils la société civile et peut-être en particulier les communautés aborigènes? Bonjour Fabrice Argounès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, politiste, enseignant à l'université Rouen-Normandie. Vous préparez en ce moment même un dictionnaire critique de l'Anthropocène qui sera publié au printemps aux éditions du CNRS, mais vous êtes aussi l'auteur notamment de l'Australie et le Monde, de vos presses universitaires de Provence, mais aussi de l'Atlas de l'Océanie dont on parlait hier. Fabrice Argounès, alors il s'agit évidemment pas de minorer ce qui s'est déroulé du côté de l'Australie. C'est malheureusement pas la première fois qu'une catastrophe comme celle-ci se produit. Et puis par ailleurs, si on regarde aussi les choses, finalement les conséquences, évidemment sur les écosystèmes, sont très importantes. C'est très important, mais le bilan humain, lui, n'est pas si lourd que ça. En tout cas, si on le met au regard d'autres catastrophes que l'on corrèle souvent à la question du dérèglement climatique. Et je pense par exemple aux inondations du côté du Bangladesh, où chaque année, là, on a aussi des centaines de morts, des milliers de déplacés, de réfugiés. Alors, comment se fait-il que ces incendies monstres du côté de l'Australie aient à ce point marqué le pays et marqué le monde ?
Alors, pour la dimension globale, c'est évidemment la capacité de l'Australie à envoyer des images au reste du monde. C'est-à-dire que c'est un pays qui fait partie des pays les plus développés au monde, dont les réseaux internationaux sont liés au monde anglo-saxon. Et puis, par exemple, bien, il y a énormément de hashtags sur Twitter venant d'Australie qui se diffusent massivement aux États-Unis ou en Angleterre et par là dans le reste du monde. Pareil pour Instagram, on a des Instagrammeuses qui peuvent mobiliser 25 millions de dollars pour aider l'Australie. C'est vrai que l'Australie fait partie de ces pays les plus visibles. L'exemple typique, c'est la capacité des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud, donc un des États australiens les plus touchés par ces incendies, a diffusé massivement des images. Par exemple, des journalistes qui viendraient voir les pompiers, ils ont une banque d'images pour leurs actions et ils sont habitués à distribuer des images et en faire partie. Deuxième chose, il y a des relais très importants. On pense souvent aux acteurs hollywoodiens. Énormément d'acteurs hollywoodiens sont d'origine australienne. Je donne cet exemple parce que des gens comme Cate Blanchett ou d'autres acteurs australiens se sont mobilisés face à ces feux pour venir en aide et ont proposé des sommes allant de centaines de milliers de dollars à plusieurs millions de dollars.
Donc une puissance médiatique colossale.
Et cette puissance médiatique, elle est aussi poussée par ce type de catastrophe qui est le feu. Le feu, à une époque où l'image est si importante, le feu a une dimension visuelle qui est extraordinaire par rapport à de la sécheresse, même à des inondations. Et donc c'est vrai que dans cette dimension, ce qu'on appelle parfois la dimension eschatologique du feu, c'est-à-dire dans cet extraordinaire sentiment de fin du monde qu'on a quand tout est brûlé, eh bien c'est vrai que les images, vous avez sûrement vu, comme vous, comme moi, comme tout le monde, à la fois en France et partout dans le monde, des images de terres ravagées, des nuages de fumée qui se mettent au-dessus de Sydney ou de Melbourne, les grandes villes, qui montrent à la fois cette proximité avec la ville. C'est ça aussi qui aide
à cette dimension. C'est vrai. Beaucoup frappé les gens qui vivent au cœur des centres-villes, obligés de se cloîtrer. C'est aussi ça qui peut-être a fait la spécificité de cette.
C'est exactement ça, parce qu'en fait, il y a des feux à peu près partout en Australie. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de feux, vous savez, il y a cette carte de l'Australie, on voit tout le pourtour australien, hormis le cœur désertique, mais qui brûle moins, évidemment, qui est moins touché. Mais ça a touché notamment deux états majeurs, qui sont le Victoria et donc la Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud, c'est l'état de Sydney, et le Victoria, celui de Melbourne, sont les deux plus grandes villes. Et à eux deux, sur 25 millions d'habitants à peu près en 2020, eh bien, les deux états en font 15. Donc c'est évidemment le cœur économique, démographique et symbolique de l'Australie qui est touchée. Et à plus, les feux sont rapprochés des banlieues de ces grandes villes. Et donc, vous l'avez dit, les urbains, ce qui n'était pas vraiment le cas dans beaucoup de catastrophes australiennes, les urbains sont directement touchés. Ceux qui vivent au cœur des mégalopoles sont touchés par ces incendies.
Après le feu est venue la pluie. On en est où aujourd'hui? Les incendies, c'est terminé? L'essentiel de la catastrophe est derrière nous? Ou attention?
Alors c'est toujours pareil, la saison sèche, on est toujours en saison sèche.
On est au milieu de l'été.
On est au milieu de l'été austral, évidemment. Mais il semblerait effectivement que les températures soient plus clémentes. Et deuxièmement, qu'il y ait plus de précipitations. Alors, c'est toujours difficile de se projeter à plusieurs semaines. Mais effectivement, il semblerait que pour cette saison, en tout cas, c'était tellement terrible les feux qu'il y a eu, qu'on devrait aller sur une baisse du nombre d'incendies. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à deux aspects qui sont très importants. C'est à la fois l'aspect historique, c'est situer la catastrophe 2019-2020 dans une perspective historique sur le temps long, qui est intéressante, même par rapport à la notion d'anthropocène et changement,
et
de percevoir la suite.
Alors, sur la première question
Sur la première question, vous l'avez très bien dit, c'est toujours pareil, c'est pas cynique de le dire, mais en nombre de vies humaines, par exemple, il y a environ 8 fois moins de morts que lors des incendies majeurs du Victoria en 2009, où il y avait eu plus de 230 morts. De même, des incendies qui ont beaucoup fait parler l'Australie, notamment qui ont eu un des premiers moments de réflexion des Verts australiens sur les incendies, c'est en 1983, pareil, il y a eu 75 morts. Donc c'est-à-dire qu'en bilan humain, on est finalement dans des chiffres, mais ce qui est une bonne nouvelle évidemment pour l'Australie pour ses infrastructures, dans des chiffres qui sont moins impressionnants que d'autres.
Ça c'est le bilan humain, le bilan écologique,
Sur le bilan des hectares, puisque c'est souvent, on arrive à 10 millions d'hectares touchés. Là on est dans des proportions proches de certains grands incendies du 19e siècle et on est au-dessus des derniers incendies, je parlais de celui de 2019 qui avait touché 2 à 3 millions d'hectares, donc on est effectivement bien au-dessus. Et après, c'est notre obligation de penser différemment cette nouvelle période qui vient. On est obligé de créer de nouveaux termes. Vous savez, on a beaucoup parlé d'écocide, et il y a des chercheurs australiens qui parlent maintenant d'omnicide. C'est-à-dire, écocide, c'est de briser tous les écosystèmes, au-delà de simplement toucher, qui est déjà terrible, les animaux, les plantes, etc. C'est l'ensemble de l'écosystème qui est touché. Et de plus en plus, on va évoquer le terme d'omnicide, c'est-à-dire que tout disparaît, comme le génocide, c'est pour les êtres humains, tout disparaît et il est difficile d'envisager un renouveau. C'est ça qui est très particulier. Parce que historiquement, on a le rapport au feu, qui veut dire lorsque quelque chose brûle, c'était notamment les aborigènes qui travaillent beaucoup, qui fait ce type d'écobuage, et on espère que ça va faire repartir la nature. Et dans certains cas, là, on se pose la question, par rapport aux températures, certaines zones ne repartiront peut-être pas.
Ça veut dire qu'il y a des espèces qui sont aujourd'hui menacées d'extinction à cause de ces incendies.
Alors voilà, des
espèces.
Alors, la faune, c'est le plus visible. On parlait d'icône, c'est le koala, qui évidemment, c'est un peu comme l'ours blanc, le koala. C'est un symbole du pays et un symbole du rapport à l'environnement, puisqu'il est, son environnement est très fragile avec les eucalyptus. Et il semblerait, c'est toujours pareil, c'est difficile de calculer, mais qu'on ait perdu entre 20 et 40% de la population de koalas d'Australie. Et comme il n'y en a que là, mais évidemment, c'est un enjeu important. Et mais il y a aussi la flore qui a beaucoup souffert et certaines plantes, certains arbres, etc., leur écosystème a quasiment disparu. On ne sait pas si on va retrouver ce type d'arbre, ou alors sauf dans certains cas particuliers, etc.
Alors qu'il y en a d'autres qui, justement, ont des caractéristiques qui leur permettent de résister. Je pense en particulier à l'eucalyptus, qui est un arbre qui a cette faculté à aller puiser très très profond et qui lui permet justement de résister aux incendies, ce qui veut dire que de plus en plus, on aura des eucalyptus en Australie, sauf que la très mauvaise nouvelle, c'est que ça brûle particulièrement bien, l'eucalyptus. Oui, voilà une mauvaise nouvelle.
Oui, c'est ça. Mais que même si ça brûle, effectivement, les racines peuvent le maintenir plusieurs mois avant de repartir.
Absolument. Si on regarde, Fabrice Argounès, maintenant, ce qu'a fait le gouvernement, on se souvient qu'au début de cette séquence-là, il a été extrêmement critiqué. On a eu un Premier ministre qui est parti tranquillement du côté d'Hawaï, alors que le pays était en train de brûler. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites justement pour réagir, pour indemniser aussi les habitations, les familles qui ont été touchées. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un état des lieux de ces annonces et de comment elles ont été prises par la population? Est-ce qu'elles sont considérées comme à la hauteur de l'enjeu?
Alors c'est la particularité du personnage, entre guillemets, de Scott Morrison. C'est-à-dire que c'est à la fois un symbole, le dirigeant fautif par rapport à ces feux, tout en rappelant, évidemment, il faut quand même insister là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette tendance, maintenant avec des leaders comme Trump ou Bolsonaro, de percevoir par rapport à leurs erreurs et leur vision du monde d'une certaine manière, mais l'Australie, évidemment, était un des principaux pollueurs bien avant l'arrivée de Scott Morrison au pouvoir. Et que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, le choix économique, on va en reparler, mais le choix économique sur les minerais et le charbon était une priorité bien avant Scott Morrison. La particularité de Scott Morrison, c'est qu'il assume, entre guillemets, et il a assumé très tôt dans sa carrière politique cette forme de climato-scepticisme qu'on pensait être un peu éloigné de la vie politique australienne. Vous savez, l'image des climato-sceptiques, maintenant, ce sont plutôt des croyants. C'est-à-dire que on considère qu'il y en a toujours un certain nombre, mais on a du mal à leur faire entendre raison. En tout cas, lui, il a ce petit côté climato-sceptique, et ce qui fait que quand il est arrivé au pouvoir, évidemment, il avait annoncé que les questions environnementales n'étaient pas sa priorité. Et qui défendait surtout, selon lui, l'emploi, l'économie australienne, etc. Donc, quand il y a eu les premiers incendies et quand ça a commencé à devenir vraiment cette catastrophe, cette catastrophe globale, enfin en tout cas nationale et aujourd'hui presque globale, il a évidemment reculé. Notamment, il n'a pas apporté, par exemple, de soutien à certains États, parce que vous savez, l'Australie est un État fédéral, et donc c'est quand même beaucoup les gouvernements, par exemple, de Méghalaie et du Victoria, qui s'engageaient sur certains points. Donc, lorsqu'il demandait des états de catastrophe naturelle dans certaines zones, il ne faisait pas de commentaires, ou au moins il ne voulait pas montrer que le gouvernement fédéral appuyait ses demandes spécifiques. Lorsqu'il y avait des crises qui pouvaient toucher, où il y avait une aide notamment du gouvernement fédéral, c'est l'armée. On lui avait demandé d'envoyer l'armée, il a mis très longtemps à l'envoyer. Et en fait, le basculement, c'est plutôt le début janvier, où là, d'un coup, c'est tout simplement le basculement de l'opinion, la perte du soutien d'une majorité de la population australienne vis-à-vis de sa politique, et donc et un effondrement de sa cote de popularité. Et donc là, en catastrophe, il a fait tout ce qui est refusé globalement sur les aides aux pompiers, sur l'intervention de l'armée, sur des aides économiques spécifiques aux zones touchées, et sur des déclarations de catastrophe naturelle. Il a fait passer à peu près tout là. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. On va rajouter aujourd'hui, c'est de dire que, en fait, mais l'Australie, ça c'est quelque chose qui a été très critiqué, qu'il a fait la semaine dernière, c'était que l'Australie était en fait, malgré tout ce qu'on disait, un bon élève et qu'ils allaient arriver à faire accepter à transformer l'économie australienne pour être plus verte.
Bon. Notamment l'une des dernières mesures en date, cette aide familiale, $400 australiens par enfant, $1000 australiens par adulte. Comment ça a été pris du côté des familles touchées?
Alors, c'est toujours pareil, c'est qu'il a quand même été très décrédibilisé. C'est toujours, évidemment, lorsqu'on va interroger, vos collègues australiens, lorsqu'ils interrogent, c'est toujours bien de récupérer 400 ou 1000 dollars. Donc il y a quand même l'idée que l'État se mobilise pour quelque chose, mais il y a toujours le sentiment que c'est un peu trop tard et que c'est pour faire. Et comme il est dans une période difficile pour lui dans les sondages, eh bien il y a un effet qui va plutôt le mettre comme le responsable principal et qui va essayer juste de se rattraper.
Parlons un peu climato-scepticisme, on va voir du côté de la société, parce que quand même, s'il y a un Premier ministre qui est climato-sceptique, c'est bien qu'il y a des gens climato-sceptiques qui l'ont mis au pouvoir. Mais si on regarde d'abord, s'agissant de cet homme-là, Scott Morrison, le climato-scepticisme, en l'occurrence dans cet événement-là, c'est rejeter l'idée que le dérèglement climatique serait lié à l'intensité de ces feux. Est-ce que c'est la position qu'il tient aujourd'hui? Et si c'est cette position qu'il tient, comment justifie-t-il cette séquence qui vient d'arriver, ces feux gigantesques?
Alors, ce sont tous les enjeux, les liens de causalité. Et sur pareil, les feux australiens n'ont pas commencé dans des mines de charbon. C'est plutôt quelle est la réflexion menée par les médias australiens et les politiques australiennes suivant leur camp sur les origines de ces feux. Et donc s'opposent deux visions très différentes. D'une part, l'idée que c'est donc les activités humaines, et notamment l'exploitation des ressources en Australie, l'exploitation de la terre australienne qui participe à un phénomène global d'augmentation des températures avec le CO2, etc., etc., et qui, avec cette évolution, plus de vent, c'est les chiffres qu'on retrouve. Les vents sont plus violents, les températures moyennes en Australie ont augmenté dans les 20 dernières années de manière assez massive. Les records de température ont été battus. C'est l'exemple de novembre, décembre et janvier de cette année, mais surtout décembre, il y a eu 3 records de température successifs, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire australienne le même mois. Donc c'est évidemment. Et face à ça, on va plutôt avoir la recherche. Il y a d'abord eu beaucoup de ministres qui ont déclaré qu'il y avait en fait pas mal de ces feux causés par des hommes qui volontaires.
De la délinquance.
Donc parce qu'il y avait 2-3 vidéos, mais évidemment, on voit le nombre de feux, c'est peu probable qu'ils fassent le tour de l'Australie pour allumer tous les feux. Deuxième chose, il y a eu l'idée que c'est en fait paradoxalement les tentatives de gestion écologique des forêts en laissant des broussailles, etc., qui ont entraîné ces feux. Et donc, il y a en Australie...
C'est parce que les écologistes refusent d'exploiter les forêts que ça aggrave la situation.
Même s'il y a, aujourd'hui, on est quand même en train de se rendre compte que le fait d'avoir mis de côté certaines communautés aborigènes et de ne plus s'occuper de certaines zones, ça a effectivement donné un peu plus de poids à des mauvaises herbes, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'on y reviendra.
Mais il y a aussi un élément que vous n'avez pas évoqué, c'est la punition divine.
Alors oui, il y a toujours pareil. L'Australie, c'est pas exactement comme les États-Unis, mais il y a une manière d'afficher sa religion, par exemple auprès de certains politiques australiens, qui est beaucoup plus visible qu'en France, tout simplement. Et Scott Morrison, il a toujours assumé, parce qu'on peut le dire, parce que lui-même l'a dit dès le début de sa carrière, le fait que c'était un chrétien évangéliste et qu'il prenait en compte ses décisions par rapport à son rapport à sa religion et son rapport direct à Dieu, puisqu'il évoque en ces termes-là. Et c'est vrai que ça l'a amené à être, par exemple, le principal opposant à l'intérieur même de son propre gouvernement en 2016 au mariage homosexuel. C'est-à-dire que c'est la coalition de droite qui légalisait le mariage homosexuel, et lui, à l'intérieur de sa propre coalition, qui était le principal adversaire à cette légalisation. Donc, évidemment, qui déjà le plaçait en situation particulière. Deuxième élément, il avait été, le début de sa carrière, là où il est vraiment connu, entre guillemets, en Australie, même s'il avait été député auparavant, c'est lors du retour de la droite au pouvoir en 2013, il est, en traduction, il est ministre des frontières et de l'immigration. Ouais. Et c'est lui qui organise, c'est pas le seul, évidemment il y en a d'autres, mais c'est lui qui organise la politique de fermeture du pays. Et il rajoute évidemment que l'Australie est un pays béni, mais on peut pas accueillir tout le monde. Enfin, il y a toujours une sorte de discours qui va être porté autour de ça, qui va toujours ramener ses décisions, ses choix politiques à son passé et son présent de croyant. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même ce petit côté. Mmh. Et donc on lui ramène dans le, comment dire, il y a d'autres, notamment des écologistes qui vont plutôt se moquer entre guillemets de lui en disant, ben, la punition divine, finalement c'est l'Australie qui l'a, ouais, parce qu'elle a trop exploité son territoire.
Fabrice Argounès, regardons peut-être le moment où il va devenir chef de l'exécutif, s'il arrive au poste de Premier ministre en août 2018, à la suite de Malcolm Turnbull. Et puis ensuite, il va être reconduit, un peu à la surprise générale, il faut le dire, l'année dernière, en mai 2019, lors d'élections fédérales anticipées, alors que tous les sondages, ou quasi, donnaient les travaillistes gagnants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel d'abord il arrive en 2018? Parce que là aussi, la question environnementale est en toile de fond, parce qu'il va y avoir une fronde autour de l'ancien Premier ministre, et c'est autour de cela qu'il va profiter de la situation et prendre la tête du gouvernement, et puis nous expliquer les raisons de sa reconduction, alors que tout le monde, à peu près, dans les observateurs et dans les instituts de sondage, pensait que les travaillistes allaient l'emporter.
Alors, déjà, peut-être qu'on peut comparer à l'Angleterre, qui est souvent un pays plus connu, où vous avez vu que, évidemment, il peut y avoir une sorte de putsch interne à un parti pour renverser un Premier ministre en exercice sans changer de majorité. C'est-à-dire qu'on en a vu avec le Brexit, hein, on a vu cette évolution qui a mené à l'arrivée de Boris Johnson avant que lui-même fasse des élections, ce qui est un peu la même démarche de Scott Morrison. Et donc, alors que la droite était au pouvoir depuis 2013 et qu'elle avait toujours une majorité, il y a eu au milieu de cette période, justement à Paris, la COP21, et notamment dans la négociation de la COP21, donc en décembre 2015, c'était il y a 4 ans en France, l'idée que la plupart des pays, notamment l'Australie, s'engageaient donc à réduire leur pollution au CO2 en s'engageant sur des chiffres assez précis. Vous savez, c'est pas constitutionnel, mais c'est en tout cas un engagement clair auprès de la communauté internationale. Et là, pour l'Australie, c'était de baisser de 26 à 28% d'ici à 2030 les émissions de CO2. Ce qui, objectivement, par rapport à leur système économique et leur production, les obligeait à réfléchir différemment à leur économie et à changer des parts importantes de leur économie. Donc c'était clair. Hein. Et donc Malcolm Turnbull, pour des raisons de politique intérieure comme de politique étrangère, était plutôt enclin à accepter l'accord de la COP.
Respecter les engagements qu'il avait pris, voilà. Quand même. Oui, c'est ça qui est question.
Mais la France elle-même n'est pas parfaitement un modèle
pour la communauté.
Non, mais disons que ils devaient effectivement respecter. Vous avez tout à fait raison. C'était respecter simplement les engagements internationaux. Et donc, sauf qu'à l'intérieur du parti, à l'intérieur de la coalition, c'est un système de deux partis, à l'intérieur de la coalition de droite, des voix se sont opposées à ça. Et notamment, il faut le dire, parce que beaucoup de ministres de l'ancien Premier ministre Turnbull, qui d'ailleurs sont restés au pouvoir avec Scott Morrison, et avaient des liens très proches avec les principaux d'entreprises minières et de gestion du fer, du charbon, de l'or, etc., l'aluminium en Australie. Et donc, il y a eu un putsch interne au parti en disant que ça mettait en danger l'économie australienne et ça allait amener à un effondrement économique potentiel. C'était évidemment les déclarations à l'intérieur du parti. Et donc, il fait environ un an avec sa majorité, et en Australie souvent on remet en jeu la majorité tous les 3 ou 4 ans. Et donc, vu que la coalition était là depuis 2013 et qu'il y a quand même finalement tous les 5 à 8 ans une alternance qui est assez respectée, entre guillemets respectée au sens où les gens votent pour la droite puis pour la gauche de manière assez régulière en Australie, et que les sondages annonçaient les travaillistes gagnants, eh bien la surprise ça a été que Scott Morrison, alors pas en vague massive, mais en tout cas confortablement, a été réélu. Et les sondages d'après élection, toujours pareil, ça, qui n'explique pas l'ensemble du vote, mais c'est des sondages, on sait ce qu'on peut en faire. Mais sous-entendez que la priorité pour beaucoup de votants australiens, c'était l'économie et pas forcément l'environnement. Donc, il correspond en tout cas, apparemment, à sa majorité. Sauf que, avec les évolutions de l'été austral, donc de cet hiver-là, il semblerait quand même que l'écologie est revenue. Hein. C'est alors derrière une catastrophe, il y a toujours eu un espoir. Il semblerait que les Australiens commencent à demander à ce que l'environnement soit une priorité nouvelle. Et dans les sondages, tout simplement depuis les feux, hein, l'écologie est repassée en tête des préoccupations principales des Australiens. Mais pour des raisons toutes simples, parce que vous avez peut-être vu, mais on estime que sur 25 millions d'habitants, 3 à 4 millions auraient souffert directement de problèmes de santé potentiels. Alors, c'est pas des problèmes de santé, tout le monde est dans les hôpitaux, mais de problèmes liés aux fumées, liés à la pollution avec les incendies. Et de même, il semblerait qu'il y ait plus d'un Australien sur deux qui a été indirectement touché par les feux, impacté par rapport à un membre de sa famille, impacté par rapport à des enjeux économiques qui le touchent directement et impacté par rapport à la pollution qui va être... Donc c'est énorme, oui. C'est plus de 12 millions de personnes.
Reste à voir maintenant combien de temps ça va durer et reste à voir aussi si ça peut se traduire politiquement. Oui. Vous évoquez la question des liens entre les conservateurs et le lobbying du charbon. Est-ce qu'il y a des liens avérés entre Scott Morrison et les intérêts du charbon ?
Alors, c'est surtout que le système politique de démocratie australienne n'est pas particulièrement opaque. Donc, c'est simplement que les géants miniers sont parmi les premiers à participer au financement des partis politiques et notamment au financement de la coalition. Et deuxième élément, 3 ministres principaux du gouvernement de Scott Morrison sont liés soit d'anciens cadres de grosses boîtes qui font du charbon, soit liés directement à l'économie de la de l'exploitation minière. Mais c'est aussi parce que le pays lui-même, c'est aussi ça, c'est toujours pareil. Il faut bien comprendre que par rapport à un État comme la France et une économie française dont les matières premières sont pas particulièrement visibles dans l'économie, l'Australie, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Pour vous donner une idée, les 5 premières exportations australiennes de marchandises, ce ne sont pas comme, par exemple, on pense à la France, on pense à des Peugeot, des Renault ou des Airbus. En Australie, c'est le charbon, le fer, l'or, l'aluminium et le gaz. C'est-à-dire que sur les 5 premières marchandises exportées, nous n'avons que des matières premières qui sont récupérées dans le sol ou offshore au large de l'Australie. Et deuxième élément, le commerce extérieur pèse environ pour 45 à 50% du PIB australien. C'est-à-dire que la dépendance de l'Australie vis-à-vis de ses exportations de matières premières est énorme. Et le paradoxe, c'est que, vous l'avez dit au début, c'est tout le paradoxe australien de ces 30 dernières années. C'est à la fois le pays qui est devenu le premier pollueur par habitant de l'OCDE, mais c'est le pays qui a la meilleure croissance de l'OCDE. Alors, évidemment, et le mode de vie australien, il faut le dire, hein, l'Australie attire beaucoup de monde encore. Alors, peut-être que ces derniers mois, évidemment, il y a un peu moins de monde qui se bouscule. Mais l'Australie attire beaucoup de monde. Sur les 10 villes les plus agréables à vivre, vous savez, dans les grands sondages internationaux, on en a 4 australiennes. Enfin, dans le mythe australien, c'est aussi l'extraordinaire dynamisme de son économie qui fait que les Australiens sont parmi les pays de l'OCDE les plus riches par habitant.
Fabrice Argounès, on va revenir sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire la question du modèle économique et voir si on peut en imaginer un autre, voir si on peut sortir de ce modèle-là. Mais d'abord, si on revient à la question du charbon et de l'industrie du charbon et de sa capacité à avoir une influence sur le paysage politique. Il se trouve que l'essentiel des activités liées au charbon en Australie sont, enfin en tout cas dépendent de sociétés étrangères. Il y a une récente étude qui a été menée par un institut qui s'appelle The Australia Institute qui révélait très récemment que les compagnies étrangères détiennent 86% de l'industrie minière du pays. Alors je ne sais pas si le chiffre est exact, mais ça donne une idée un peu générale. En quoi est-ce que le fait précisément que ce secteur appartienne très majoritairement à des entreprises extérieures, étrangères, en quoi est-ce que ça peut être un problème? Est-ce que ça rend sa régulation plus difficile?
Alors, ça peut rendre sa régulation difficile, mais un des arguments souvent qui est présenté, en tout cas en Australie, par rapport à la faiblesse du poids de la population en général sur les entreprises qui font du charbon ou des minerais, c'est qu'en réalité, 75% de ces minerais sont exportés. Et le reste est essentiellement, c'est du charbon, par exemple, qui participe à la fabrique d'électricité. C'est-à-dire que concrètement, vous avez tous vu des campagnes de boycott pour certains produits. Il n'y a aucune prise de la population australienne sur le charbon. Personne, c'est comme le nucléaire en France. Personne va dire je ne vais pas consommer d'électricité pour m'opposer au charbon. Ça, on ne le voit jamais.
Vous parlez de nucléaire. Pourquoi l'Australie ne fait pas de nucléaire? Si je ne m'abuse, il y a une loi qui empêche de faire du nucléaire en Australie. Pourquoi? Oui, alors, on pourrait au moins économiser les fameux 60% que vous évoquez.
Oui, alors, enfin, à peu près. C'est le paradoxe du bon citoyen international et du mauvais citoyen international.
Moi, j'ai pas de position, hein, Fabrice Argounès. Avance simplement des hypothèses.
Simplement pour dire qu'en France, c'est rare de critiquer EDF en boycottant sa propre électricité. Ouais, je connais peu d'exemples qui le font. Je sais pas si vous en avez, mais c'est assez rare. C'est plus facile de ne pas acheter un jean ou quelque chose comme ça pour de la nourriture. Mais l'idée, c'est que tout simplement, l'Australie, c'est ça la particularité, c'est que globalement, depuis les années 90, l'Australie est en résistance sur beaucoup de normes écologiques mondiales. Ils n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto en 97, c'était le premier acte qui les sortait de leur image de bon citoyen international. À Johannesburg en 2002, là où il y a là aussi un grand raout international pour l'écologie, ils vont être avec des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Chine, le Canada, les États-Unis, à refuser certaines normes. Mais de l'autre côté, ils sont extrêmement engagés, par exemple, des choses qui nous paraissent aujourd'hui lointaines vues de France, mais c'est les leaders mondiaux pour la défense de la baleine, contre la chasse à la baleine. C'est des leaders mondiaux contre le nucléaire, qui étaient opposés, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, ils s'étaient opposés à la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique, évidemment, ils étaient en première ligne, hein, mais ils avaient été assez actifs. Ils sont en pointe contre tout ce qui est trafic d'armes, etc. C'est-à-dire que c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils épousent un imaginaire occidental que l'on connaît aujourd'hui, qui est celui d'être les bons citoyens face à des abus, et D'un autre côté, leur économie repose sur quelque chose de commun avec des pétromonarchies du Golfe. Et donc, il est toujours difficile pour eux de se présenter comme les bons ou les mauvais, entre guillemets, suivant les cas.
On est avec vous ce matin, Fabrice Argounès, dans cette série consacrée à l'Océanie. Aujourd'hui, l'Australie, l'icône de l'Anthropocène, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Voilà, on entend là des manifestations contre Scott Morrison, le Premier ministre australien. Loin d'être un cas isolé, le climato-scepticisme de Scott Morrison, c'est le reflet d'une certaine tradition politique australienne, vous le disiez, portée à la fois par les milieux conservateurs, mais aussi peut-être par l'empire médiatique de Rupert Murdoch. On va en parler tout de suite avec Clive Hamilton. Il est philosophe, professeur d'éthique publique à l'université Charles Sturt à Canberra. C'est l'ancien membre du Conseil australien sur le changement climatique. Il a écrit notamment deux livres publiés en français, Requiem pour l'espèce humaine, qui est paru aux presses de Sciences Po, mais aussi Les apprentis sorciers du climat, c'était au seuil. Il va nous expliquer comment s'est construit historiquement ce climato-scepticisme en Australie, à la fois dans le paysage politique, mais aussi dans le paysage médiatique, et puis aussi les liens qui existent avec le climato-scepticisme, venu d'ailleurs, à savoir celui venu des États-Unis. Mais pour commencer, il va nous donner son analyse quant à l'évolution possible de ce climato-scepticisme au sein de l'opinion, à la suite précisément des incendies. Il est au micro, Clive Hamilton, de Margot Le Ride. On l'écoute.
Je pense que les incendies de forêt en Australie ont provoqué un grand revirement de l'opinion publique. Les premiers sondages vont d'ailleurs dans ce sens. Et je pense que ça va donner un coup de fouet au mouvement de protestation et de mobilisation en faveur du climat, avec des actions plus nombreuses et plus intenses cette année. En Australie, les forces du déni, et particulièrement les médias de Murdoch, ont été poussés dans leur retranchement. Ils ont fait amende honorable en prétendant reconnaître que le changement climatique est bel et bien provoqué par l'homme, mais il continue en parallèle à publier articles et reportages qui minimisent le lien entre la gravité des feux de forêt et le changement climatique.
Revenons un peu en arrière. Dans votre ouvrage « Scorchers, the dirty politics of climate change », non traduit en français mais dont le titre « Scorcher » évoque à la fois la canicule et la folie des décideurs politiques, vous expliquez que le climato-scepticisme a été importé en Australie depuis les États-Unis, notamment à travers des think tanks financés par l'industrie des énergies fossiles. Qui étaient ces acteurs et quel a été leur rôle exact, Clive Hamilton?
One of the main right-wing think tanks in Australia, the Institute of Public Affairs, was campaigning against climate change.
Alors l'un des principaux think tanks australiens, le Institute of Public Affairs, a effectivement fait campagne contre le changement climatique et la lutte contre le changement climatique dans les années 90 et au début des années 2000. Ils sont assez cachotiers à propos de leurs sources de financement, mais il est apparu très clairement qu'ils recevaient de l'argent provenant d'intérêts liés aux énergies fossiles. J'ai pu retracer le lien existant entre le Institute of Public Affairs, basé à Melbourne, et profondément lié au mouvement politique conservateur australien, et le mouvement climato-sceptique américain.
PR people and fossil fuel industry types and the conservative think tanks in the United States.
Nous avons pu constater que des responsables du Institute of Public Affairs se sont rendus aux États-Unis pour rencontrer leurs homologues et des représentants du secteur des combustibles fossiles, ainsi que les think tanks américains conservateurs.
There is of course a well-established link.
Et ils ont appris le genre d'arguments utilisés pour décrédibiliser le changement climatique et la défense du climat, et les tactiques organisationnelles qui avaient marché aux États-Unis. Il y a naturellement aussi un lien bien connu entre ceux qui niaient le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon, par exemple, et ceux qui ont ensuite commencé à nier le lien entre la combustion des énergies fossiles et le changement climatique. On voit donc bien comment le climato-scepticisme a été importé en Australie, où il a gagné en influence politique. Et je dois dire que j'étais choqué de la manière dont ce climato-scepticisme s'est aussi profondément infiltré dans la politique conservatrice australienne. Je me faisais peut-être une idée romanesque des conservateurs australiens. Je ne pensais pas qu'ils seraient assez accrochés à leurs idéologies et assez cyniques pour rejeter de cette manière les innombrables preuves scientifiques existantes.
Et quel a été le rôle des médias australiens dans la diffusion de ces idées climato-sceptiques ?
Well, climate denialism in Australia would be on the margins and not very influential.
Sans les médias de Murdoch, le climato-scepticisme en Australie serait marginal et aurait peu de poids. N'oublions pas que 70% des journaux vendus en Australie appartiennent au groupe Murdoch.
It was pretty clear that as Rupert Murdoch became more conservative,
Évidemment, à mesure que Rupert Murdoch est devenu plus conservateur et qu'il a constaté l'énorme succès qu'a eu Fox News en adoptant une position ultra-conservatrice et en tapant à tout va sur les climatologues, cette attitude fanatique est devenue de plus en plus apparente dans ses journaux, notamment The Australian. Qui est un peu le vaisseau amiral des journaux dits sérieux, avec de gros guillemets, mais également dans ses tabloïdes.
Hardline fanatical denialism has been promoted on the Murdoch television station that is Sky News.
Et ces dernières années, ce climato-scepticisme débridé et fanatique a été défendu sur la chaîne de télévision Sky News Australia, qui appartient à Murdoch. Donc sans ce matraquage permanent de reportages venant décrédibiliser la science du climat et les climatologues, et sans ces récits incroyablement exagérés sur la catastrophe économique qu'impliquera la taxe carbone, le climato-scepticisme n'aurait pas autant pris racine dans les milieux conservateurs australiens. Rupert Murdoch est donc bel et bien à l'origine de la propagation du climato-scepticisme dans mon pays.
Vous écrivez également que l'Australie a joué un rôle clé pour minimiser au maximum la dimension contraignante du protocole de Kyoto. Dans quel sens, Clive Hamilton ?
Well, in 1997, Australia then led by the Howard Conservative government, and they were
Eh bien, en 1997, l'Australie était alors dirigée par le gouvernement du conservateur Howard. Ses membres du gouvernement n'étaient pas ouvertement climato-sceptiques. Ils n'avaient pas fait leur coming out, pour ainsi dire. Mais ils ont fortement perturbé la conférence de Kyoto et ils ont failli la faire échouer, d'ailleurs. Vers la fin de la conférence, presque à la dernière minute, le ministre australien de l'Environnement a pris la parole pour exiger un accord particulièrement complaisant pour l'Australie, ce qui a provoqué une levée de boucliers des délégués européens qui ont crié au scandale. Mais les Australiens ont dit « soit vous nous donnez ce que nous exigeons, soit nous refusons de signer ». Et les délégués, épuisés, ont fini par céder. Et c'est ainsi que l'Australie a réussi à avoir des objectifs incroyablement faibles et à faire l'objet d'un traitement de faveur au titre du protocole de Kyoto. Et malgré cela, les Américains sous administration Bush rejetteront le protocole de Kyoto en 2001 et un ou deux ans plus tard, le gouvernement conservateur australien, qu'il avait pourtant signé, leur emboîtera le pas. Et n'oubliez pas que les Australiens avaient eu pendant plus de 20 ans les plus fortes émissions de gaz à effet de serre par habitant au monde. Du coup, en voyant l'Australie agir ainsi, de nombreux pays se sont dit « Bon, si l'Australie ne prend pas le changement climatique au sérieux, alors que ce pays est l'un des plus gros pollueurs de la planète et plus susceptible de souffrir des effets du changement climatique, que m'importe quel pays développé s'il ne compte rien y faire, à quoi bon ?» L'Australie a donc joué un rôle extrêmement perturbateur dans la lutte contre le changement climatique et pour ceux d'entre nous qui prenons le changement climatique au sérieux, c'est une honte nationale.
For the most part, extremely destructive, and for those of us who take climate change seriously, a matter of national shame.
Plus récemment, vous avez affirmé que nous étions tous des climato-sceptiques dans la mesure où il est impossible de prendre la juste mesure de ce que nous avions fait subir à la planète. Comment l'expliquez-vous ? S'agit-il, selon vous, d'une forme d'incapacité psychologique ?
Well, I wrote this in my book Requiem for a Species, which came out several years ago, and of course was published in French.
C'est ce que je dis dans mon livre « Requiem pour l'espèce humaine », publié il y a quelques années, et dont il existe une version en français, bien sûr. À l'époque, je me suis vraiment penché très attentivement et sérieusement sur ce que les spécialistes du climat nous disaient, et l'affaire est terrifiante. Ils nous disent qu'il est désormais quasiment impossible d'éviter un réchauffement de la Terre de 3 ou 4 degrés, voire plus, d'ici à quelques décennies.
It's a different planet. It's a one much less sympathetic to life and especially human life.
Une terre autant réchauffée est une terre radicalement transformée. On parle d'une planète différente, bien moins propice à la vie humaine en particulier. D'où des pressions difficiles à imaginer sur les sociétés humaines. Et de ma propre expérience personnelle, je conclus que nous essayons d'affronter toute la vérité, toute l'horreur de ce que les spécialistes du climat nous disent. Nous en avons le devoir moral. Et malgré tout, vivre au jour le jour avec ce fardeau, en parler à nos enfants, imaginer l'avenir dans ces circonstances, c'est tout simplement insupportable. Et je connais d'ailleurs des gens qui ont essayé de vivre avec cette horrible vérité, et certains d'entre eux ont pété les plombs, ils deviennent fous, c'est trop difficile à encaisser. Et donc la plupart d'entre nous, nous tombons dans une sorte de déni. Nous essayons de ne pas y penser, nous le minimisons, nous nous berçons de douces illusions et nous continuons à vivre comme si cela ne pouvait tout simplement pas être vrai.
Voilà, on écoute à l'instant Clive Hamilton, philosophe, professeur d'éthique publique à l'université Charles Sturt de Canberra. Il est notamment l'auteur de Requiem pour l'espèce humaine, mais aussi des apprentis sorciers du climat. Il était au micro de Margot Le Ridon. On va s'intéresser tout de suite à une frange de la société australienne qui paye très cher ce climato-scepticisme de ses responsables. Alors même que précisément, ils auraient peut-être des solutions pertinentes sur la menace des feux dont on parle ce matin, les aborigènes.
Comme vous pouvez le voir, c'est un pays d'arbres mixtes ici. Ici, tous les petits arbres peuvent résister à une lente combustion. La température ici reste fraîche. Il n'y a pas de grosses flammes ni de chaleur ici. Comme il fait bon et frais, eh bien, c'est bon pour la végétation et les arbres. Lorsque nous allumons des feux, nous ne le faisons pas n'importe où. Quand j'apprends à quelqu'un à brûler la terre, nous nous rendons à l'endroit choisi. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le faire à cet endroit-là. Et nous allumons le feu qui brûle, comme dans un cercle bien défini. Et il n'y a pas de risque, tout reste sous notre contrôle.
Voilà, on entendait à l'instant la voix d'un aborigène, un ranger, aborigène lui-même, qui utilise ces méthodes de brûlis qu'on connaît depuis longtemps maintenant hein, dans les peuples autochtones australiens, ce feu préventif. Alors on va essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, son efficacité, et puis est-ce qu'il faut croire peut-être à une reconsidération de cette mémoire culturelle jusqu'ici ignorée. Et est-ce que tout cela révèle aussi, on va regarder ce que ça révèle aussi de la manière dont en Australie on prend en charge cette question indigène et comment elle s'articule avec celle du rapport à la nature. Bonjour Barbara Gloszewski.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, anthropologue, ethnologue, spécialiste des aborigènes. Ça fait des centaines, voire des milliers d'années que les populations aborigènes occupent ces terres, évidemment, et ça fait très longtemps aussi qu'ils y font des feux et qu'ils y utilisent même ces feux dans une approche de gestion des territoires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet art du brûlis préventif et sur la réalité de son efficacité, en quelques mots? On va commencer par ça, le terrain.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'expression « petit feu » qui est souvent employée par les aborigènes est une expression qu'on utilisait dans nos territoires en Europe, en France, comme l'a rappelé récemment un pompier français qui revenait d'Australie. Et donc, c'est une pratique très ancienne pour justement prévenir les incendies que les aborigènes connaissaient au moment de leur colonisation, il y a 2 siècles et demi. Et c'est un petit peu grâce à eux que l'on a une Australie aussi riche en diversité, en biodiversité, parce qu'ils se sont occupés de ce continent eh bien, au moins depuis 60 000 ans, puisque c'est plus que des milliers d'années. Alors évidemment, ce continent a énormément changé hein, au cours des millénaires. Ceci dit, la forme qu'il a aujourd'hui est très très différente de celle qu'il avait au moment de la colonisation, parce que précisément grâce à cet écobuage et à ces petits feux, il donnait forme à des paysages qui, d'une certaine façon, ça a été repéré par des personnes qui étaient là et qui relevaient ce qui se passait au moment de la colonisation dans les archives, et donc et remonté dans des travaux historiques et archéologiques. On aurait dit, en arrivant dans cette Australie du Sud-Est qui en ce moment donc brûle toujours, un paysage de bocage européen. C'est-à-dire que entre des petits bois, il y avait des immenses clairières et qui étaient entretenues justement à la fois par les feux, puis le fait qu'il y avait beaucoup de gibier et aussi qu'on faisait pousser toutes sortes de plantes.
Et avec des forêts totalement impénétrables, extrêmement rares en réalité. Il y avait une gestion des territoires qui était assez étonnante et qui d'ailleurs effectivement ont frappé, ont beaucoup impressionné les premiers colons. Alors comment se fait-il et pourquoi est-ce que ces colons n'ont finalement pas gardé ces pratiques qui étaient pourtant extrêmement pertinentes?
Alors, les colons ont été impressionnés, mais étaient déjà dans le déni à l'époque, parce que leur enjeu, c'était de s'accaparer ces terres avec un modèle qui n'était pas du tout pensé de manière critique de développement et de croissance, et donc de transformation du paysage avec à la fois une flore et une faune importées. Et donc, en fait, au cours des décennies, ils ont considérablement abîmé le sol, et donc la fertilité du sol aussi. Et ce qui fait que la manière dont les aborigènes vivaient avant est devenue de plus en plus difficile. Ceci dit, cela n'a pas empêché... Enfin, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu au cours des décennies, mais il y a des espèces qui ont continué à se reproduire, comme les kangourous, qu'aujourd'hui on tue à la mitraillette sous prétexte que c'est une compétition par rapport au bétail importé. Or, il se trouve que ce bétail, comme vous le savez, a fait des émissions de carbone qui sont fort nocives. Et il y a eu une idée du CNRS français, hein, en accord avec des scientifiques australiens à un moment donné. On voit l'absurdité de notre époque et de l'anthropocène à ce niveau-là, de faire des modifications donc génétiques sur le bétail pour qu'ils aient un système digestif comme les kangourous qui, eux, n'émettent pas de mauvais carbone. Au lieu de, comme proposent beaucoup d'aborigènes, remplacer tout simplement le bétail par la viande de kangourou que les aborigènes ont toujours mangée et qui d'ailleurs est offerte sur les cartes des restos chics pour touristes partout en Australie.
Barbara Glowczewski, quel lien est-ce que vous établissez entre les violences, les discriminations à l'égard des aborigènes et le mépris vis-à-vis des questions environnementales? On parlait à l'instant de la question du climato-scepticisme visiblement assez bien partagé en Australie, et pas seulement du côté des responsables politiques, aussi à l'intérieur de la société australienne. Jusqu'où est-ce que vous corrélez la discrimination, les violences envers les aborigènes et le peu de cas, c'est moins qu'on puisse dire, qui est fait aux questions écologiques,
pardon. Je pense que c'est en train de changer parce que le rapport à la terre n'est pas du tout le même dès lors que l'on est menacé dans sa survie. Et donc pendant des décennies, beaucoup de colons, pas tous, hein, mais beaucoup de colons ont vu la terre comme nous l'avons vu aussi en Europe ou en Amérique, juste comme quelque chose d'inerte qu'il s'agit d'utiliser pour en extraire toutes ses richesses. Or pour les aborigènes, la terre est vivante. Et donc ils le disent depuis le début de la colonisation et essayent de la défendre en disant qu'ils doivent en prendre soin. Et en prendre soin, c'est à la fois donc des pratiques, des techniques qui sont très très pratiques, qui relèvent pratiquement de la proto-agriculture, contrairement à une certaine idée évolutionniste qu'on a de l'Australie qui serait juste des chasseurs-cueilleurs errants de part en part. Je veux dire, ils étaient extrêmement liés à des lieux et donc des sites sacrés, ils avaient tous leur territoire. Et donc, depuis les années 90, les aborigènes peuvent faire des revendications territoriales. Bon, dans le territoire du Nord, ça a même commencé en 1976. qui, d'après la loi australienne, leur donne un droit de regard sur, et aussi un droit de compensation sur les ressources du sous-sol. Et donc, du coup, souvent, ils se sont opposés à des exploitations et enfin à l'extractivisme, quel que soit le minerai, et particulièrement quand il s'agissait d'uranium, et aujourd'hui de gaz de schiste. À ce titre, ils représentent un frein vis-à-vis d'une certaine idée du développement qui, comme il est dit par beaucoup de personnes, depuis fort longtemps, bénéficie plus à des compagnies minières étrangères qu'aux Australiens eux-mêmes. Mmh. Alors donc, c'est dans ce sens-là que les aborigènes ont été dénigrés. D'ailleurs, il y a eu un mouvement même pour supprimer des communautés aborigènes il y a quelques années. Un mouvement, je veux dire, une intention gouvernementale, aussi bien des États que de la part du gouvernement fédéral, tout simplement pour pouvoir plus facilement s'approprier les ressources dans le désert et dans les régions où ces communautés existent. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que grâce à cette crise des incendies, il y a une petite reconsidération, là, récente. Il y a eu une rencontre entre une cinquantaine d'organisations aborigènes avec plusieurs ministres australiens pour qui répondent à ce que demandent les aborigènes de fort longtemps, c'est-à-dire leur souveraineté. Et elle ne sera pas donnée comme ça du jour au lendemain, mais il s'agit quand même de restructurer complètement autrement une manière extrêmement paternaliste et bureaucratique et qui est appliquée à ces régions où vivent les aborigènes. Ils sont partout, ils sont en ville aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le nord de l'Australie, où il y a ces enjeux miniers, les aborigènes sont un petit peu comme les fourmis ou les insectes qui empêchent les grosses compagnies minières d'avancer comme elles veulent. Et donc, effectivement, il y a une espèce de ligne comme ça, de conflictuelle, qui fait qu'on fait semblant de ne pas les écouter.
My grandfather went down with the Montevideo. Rising sun sent him floating to his rest. And his wife fled south to Sydney, seeking out safe harbor. A North Shore matron she became with some paying guests. Oh, my father went down.
Merci beaucoup à Barbara Klofsiewski qui est avec nous à l'instant par téléphone, directrice de recherche au CNRS, anthropologue, ethnologue, spécialiste de ces aborigènes d'Australie dont on parlait. Un grand merci Fabrice Argounès d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai vous concernant l'Australie et le monde, l'Atlas de l'Océanie, mais aussi un ouvrage à paraître, un dictionnaire critique de l'Anthropocène, ça sera au printemps. Merci beaucoup à tous les deux. I'm sure you remember. Do you remember? C'est avec ce titre de Midnight Oil, bien sûr un groupe australien, qu'on tourne cette page. Le fil de l'Océanie, on le reprendra demain à 11h sur France Culture. Presque 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et les primaires démocrates vont bientôt rentrer dans le vif du sujet, ça sera au début de la semaine prochaine.
Eh oui, c'est lundi en effet que dans le petit état rural de l'Iowa va avoir lieu le premier vote visant à départager les 25 candidats officiellement en lice pour l'investiture démocrate aux élections présidentielles de novembre. Alors, au niveau national, les sondages montrent une étonnante stabilité de l'électorat démocrate. Cela fait des mois que Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, domine d'une courte tête, environ 30% des intentions de vote. Mais il est suivi par les deux candidats de la gauche du parti, Bernie Sanders, 23%, et Elizabeth Warren, 14%. La seule surprise du moment, c'est l'arrivée parmi les favoris de l'ancien maire de New York, Mike Bloomberg, l'un des hommes les plus riches du monde, la 11e fortune du monde, avec 9%. Il ravit la 4e place à Pete Buttigieg, qui est à 8%. Alors voilà, ces 5-là forment désormais le peloton de tête. Mais rien n'assure que le prochain candidat ou la prochaine candidate démocrate à l'élection présidentielle se trouve bien parmi ces 5-là. Les 4 premiers cités sont en effet lourdement handicapés par leur âge. Alors que les élections de mi-terme se sont traduites par un formidable rajeunissement des représentants démocrates, Joe Biden a 77 ans, Bernie Sanders, 78, Elizabeth Warren, 70, et Mike Bloomberg lui-même en a 77. Alors certes, le cinquième, Pete Buttigieg, lui, est jeune, mais peut-être trop pour le job. Il a 37 ans, trop jeune ou bien trop modéré. Pour se repérer dans la jungle d'un parti en pleine recomposition après le choc que lui a infligé la victoire inattendue de Donald Trump, on lira avec profit l'article que vient de publier la revue Le Débat dans son numéro de janvier-février. Sous le titre « Nouvelle gauche américaine », les auteurs, Célia Belin et Paul Zayac, dressent un tableau très éclairant des tendances qu'on peut distinguer actuellement au sein du Parti démocrate. Comme le suggèrent les auteurs, chacune d'entre elles s'ancre dans une interprétation spécifique des causes de la victoire de Trump. Alors vous avez l'establishment du parti, c'est classique. Pour eux, l'élection de Trump a été un accident. Après tout, en nombre de voix, Hillary Clinton devançait largement le candidat républicain. Donc, sa stratégie de coalition des cols bleus, des minorités et des diplômés doit être maintenue. La victoire passe par la reconquête des vieux fiefs démocrates du Midwest, comme la Pennsylvanie ou le Michigan, où les électeurs appartenant à la classe ouvrière doivent avoir compris aujourd'hui que Trump décidément n'était pas leur héros. Joe Biden, qui a qualifié l'élection du Donald d'aberration, est le représentant de cette tendance.
Et puis ensuite, Brice vient cette gauche sociale.
Alors pour ses animateurs, Donald Trump est le symptôme du décrochage des classes populaires et moyennes. Le parti de la gauche américaine s'est trop identifié aux élites des deux côtes. Il faut à présent qu'il s'attaque aux inégalités de revenus qui se sont lourdement aggravées aux États-Unis depuis la crise financière de 2008. Barack Obama, bien sûr, devait sauver les banques afin d'éviter l'effondrement du système financier, mais cela a été ressenti par une partie importante de l'opinion, notamment à gauche, comme la preuve de la collusion des élites politiques et financières. Il faut donc assumer un programme qu'on qualifie aux États-Unis de socialiste. Et c'est celui que proposent de leur côté Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Vient ensuite ce qu'on appelle la gauche des minorités. Pour ses partisans, Trump a été élu grâce aux voix des blancs racistes. Il est l'incarnation du « white lash », un néologisme formé à partir du mot « backlash ». Or, les dernières élections ont vu, je le disais, l'arrivée à la Chambre des représentants d'une pléiade de jeunes militants et surtout de jeunes militantes de gauche issues des minorités ethniques. La plus connue, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Elle a 30 ans, elle a été élue à New York, mais plusieurs candidats s'apparente à ce courant qui s'adresse également aux LGBT. On peut parler de Kamala Harris, qui est sénatrice de Californie tout de même, hein, ou encore de Cory Booker, le sénateur du New Jersey. Enfin, il existe un courant que les auteurs de l'article qualifient d'extrême centre. Pour s'étonnant, ce qui a provoqué la victoire de Trump, c'est la polarisation, c'est l'hystérisation de la vie politique américaine. La victoire de l'opposition démocrate passe donc par un apaisement politique. Ils mettent en avant, ces gens-là, leur capacité à trouver des compromis en abordant les problèmes de manière désidéologisée et près du terrain. Leur représentant le mieux placé dans les sondages, c'est ce fameux Pete Buttigieg. Il est marié avec un homme, mais il affiche une vie personnelle rangée. Il prône des valeurs de liberté, de sécurité qui sont compatibles avec les préoccupations habituelles de l'électorat démocrate modéré tenté hier par Trump. Alors voilà, les électeurs démocrates n'ont que l'embarras du choix. Leur problème serait plutôt, selon Patrick McGinnis, le FOBO ou Fear of a Better Option. Lorsque vous êtes confronté à une multiplicité de choix qui semblent tous se valoir et que vous ignorez ce que l'avenir vous réserve, il est très difficile de trancher. Et vous êtes enclin à conserver toutes les solutions disponibles le plus longtemps possible. C'est ce qui arrive au Parti démocrate. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, vous me direz, parce que c'est en juillet, à Milwaukee, dans le Wisconsin, que se déroulera la Convention nationale démocrate. Et nous saurons alors quel est le candidat que les électeurs démocrates estiment le mieux placé pour empêcher Donald Trump de rempiler à Washington.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.